car il avait fait la route de Vilnox à pied, exprès pour voir Frédéric. Isidore les aborda. Madame priait monsieur de revenir, et craignant qu'il n'eût froid, elle lui envoyait son manteau. « Reste donc, » dit Deslauriers. Et ils continuèrent à se promener d'un bout à l'autre des deux ponts qui s'appuient sur l'île étroite, formée par le canal et la rivière. Quand ils allaient du côté de Nogent, ils avaient en face un pâté de maisons s'inclinant quelque peu. À droite, l'église apparaissait derrière les moulins de bois dont les vannes étaient fermées, et à gauche, liés d'arbustes, le long de la rive, terminaient des jardins que l'on distinguait à peine. Mais du côté de Paris, la grande route descendait en ligne droite, et des prairies se perdaient au loin dans les vapeurs de la nuit. Elle était silencieuse et d'une clarté blanchâtre. Des odeurs de feuillage humide montaient jusqu'à eux. La chute de la prise d'eau, 100 pas plus loin, murmurait, avec ce gros bruit doux que font les ondes dans les ténèbres. Deslauriers s'arrêta et il dit « Ces bonnes gens qui dorment tranquilles, c'est drôle. Patience, un nouveau 89 se prépare. On est là de constitution, de charte, de subtilité, de mensonge. Ah, si j'avais un journal ou une tribune, comme je vous secourais tout cela. Mais pour entreprendre n'importe quoi, il faut de l'argent. Quelle malédiction que d'être le fils d'un cabaretier et de perdre sa jeunesse à la quête de son pain. » Il baissa la tête, se mordit les lèvres, et il grelottait sous son vêtement mince. Frédéric lui jeta la moitié de son manteau sur les épaules. Ils s'en enveloppèrent tous deux, et se tenant par la taille, ils marchaient dessous, côte à côte. « Comment veux-tu que je vive là-bas sans toi ?» disait Frédéric. L'amertume de son ami avait ramené sa tristesse. « J'aurais fait quelque chose avec une femme qui m'eût aimé. Pourquoi ris-tu ? L'amour et la pâture est comme l'atmosphère du génie. Les émotions extraordinaires produisent les œuvres sublimes. Quant à chercher celle qu'il me faudrait, j'y renonce. D'ailleurs, si jamais je la trouve, elle me repoussera. Je suis de la race des déshérités, et je m'éteindrai avec un trésor qui était de strass ou de diamant. Je n'en sais rien. » L'ombre de quelqu'un s'allongea sur les pavés, en même temps qu'ils entendirent ces mots. « Serviteurs, messieurs. » Celui qui les prononçait était un petit homme, habillé d'une ample redingote brune et coiffé d'une casquette laissant paraître sous la visière un nez pointu. « Monsieur Rock ?» dit Frédéric. « Lui-même, » reprit la voix. Le Nogentais justifia sa présence en comptant qu'il revenait d'inspecter ses pieds jaloux, dans son jardin au bord de l'eau. « Et vous voilà de retour dans nos pays ?»« Très bien. J'ai appris cela par ma fillette. La santé est toujours bonne, j'espère. Vous ne partez pas encore. » Et il s'en alla, rebuté sans doute par l'accueil de Frédéric. Madame Moreau, en effet, ne le fréquentait pas. Le père Roch vivait en concubinage avec sa bonne, et on le considérait fort peu, bien qu'il fût le croupier d'élection, le régisseur de M. d'Ambreuse. « Le banquier qui demeure rue d'Anjou ?» reprit Deslauriers. « Sais-tu ce que tu devrais faire, mon brave ?» Isidore les interrompit encore une fois. Il avait ordre de ramener Frédéric définitivement. Madame s'inquiétait de son absence. « Bien, bien, on y va, » dit Deslauriers. « Il ne découchera pas. » Et le domestique est en partie. « Tu devrais prier ce vieux de t'introduire chez les D'Ambreuse. Rien n'est utile comme de fréquenter une maison riche. Puisque tu as un habit noir et des gants blancs, profites-en. Il faut que tu ailles dans ce monde-là. Tu m'y mèneras plus tard. Un homme à millions, pense donc. Arrange-toi pour lui plaire. Et sa femme aussi. Deviens son amant. » Frédéric se récriait. « Mais je te dis là des choses classiques. Il me semble. Rappelle-toi, Rastignac, dans la comédie humaine, tu réussiras, j'en suis sûr. » Frédéric avait tant de confiance en Deslauriers qu'il se sentit ébranlé, et oubliant Madame Arnoux, ou la comprenant dans la prédiction faite sur l'autre, il ne put s'empêcher de sourire. Leclerc ajouta « Dernier conseil, passe tes examens. Un titre est toujours bon. » Et lâche-moi franchement tes poètes catholiques et sataniques, aussi avancés en philosophie qu'on l'était au XIIe siècle. Ton désespoir est bête. De très grands particuliers ont eu des commencements plus difficiles, à commencer par Mirabeau. D'ailleurs, notre séparation ne sera pas si longue. je ferai rendre gorge à mon filou de père. Il est temps que je m'en retourne. Adieu. As-tu 100 sous pour que je paye mon dîner ?» Frédéric lui donna 10 francs, le reste de la somme prise le matin à Isidore. Cependant, à 20 toises des ponts, sur la rive gauche, une lumière brillait dans la lucarne d'une maison basse. Des lauriers l'aperçut. Alors il dit emphatiquement, tout en retirant son chapeau, « Vénus, reine des cieux, serviteur, mais la pénurie est la mère de la sagesse. Nous a-t-on assez calomnié pour ça, miséricorde ?» Cette allusion à une aventure commune les mit en joie. Il riait très haut dans les rues. Puis, ayant soldé sa dépense à l'auberge, Des Lauriers reconduisit Frédéric jusqu'au carrefour de l'Hôtel-Dieu, et après une longue étreinte, les deux amis se séparèrent. Chapitre 3e. 2 mois plus tard, Frédéric, débarqué un matin rue Coquéron, songea immédiatement à faire sa grande visite. Le hasard l'avait servi. Le père Roque était venu lui apporter un rouleau de papier en le priant de les remettre lui-même chez M. d'Ambreuse. Et il accompagnait l'envoi d'un billet décacheté où il présentait son jeune compatriote. Madame Moreau parut surprise de cette démarche. Frédéric dissimula le plaisir qu'elle lui causait. M. d'Ambreuse s'appelait de son vrai nom le comte d'Ambreuse, mais dès 1825, abandonnant peu à peu sa noblesse et son parti, il s'était tourné vers l'industrie, et l'oreille dans tous les bureaux, la main dans toutes les entreprises, à l'affût des bonnes occasions, subtil comme un clerc et laborieux comme un auvergnat. Il avait amassé une fortune que l'on disait considérable. De plus, il était officier de la Légion d'honneur, membre du Conseil général de l'Aube, député, pair de France un de ses jours. Complaisant du reste, il fatiguait le ministre par ses demandes continuelles de secours, de croix, de bureaux de tabac, et dans ses bouderies contre le pouvoir, il inclinait au centre gauche. Sa femme, la jolie Madame d'Ambreuse, que citaient les journaux de mode, présidait les assemblées de charité. En cajolant les duchesses, elle apaisait les rancunes du noble faubourg et laissait croire que M. d'Ambreuse pouvait encore se repentir et rendre des services. Le jeune homme était troublé en allant chez eux. « J'aurais mieux fait de prendre mon habit. On m'invitera sans doute au bal pour la semaine prochaine. Que va-t-on me dire ?» L'aplomb lui revint en songeant que M. d'Ambreuse n'était qu'un bourgeois, et il sauta gaillardement de son cabriolet sur le trottoir de la rue d'Anjou. Quand il eut poussé une des deux portes cochères, il traversa la cour, gravit le perron